France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation? Philosophe, historien et traducteur aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leur pensée. Chaque vendredi, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité a choisi d'évoquer le roman d'un philosophe écrivain français. Si ce dernier n'est rien de moins que l'un des plus reconnus et critiqués aussi du XXe siècle, Jean-Paul Sartre pour ne pas le citer, ce roman, lui, n'a pas marqué les foules. Et pourtant, on y trouve bien ce qui fait encore sa renommée philosophique. Aujourd'hui.
On ne peut pas dire que le métier d'écrivain soit un métier spécial. C'est pas un métier privilégié. On constate simplement, quand on est dans n'importe quel métier d'ailleurs, que les vraiment très bons dans le métier en question sont très rares. Et que la plupart du temps, ils imitent des gens. La plupart des spécialistes imitent.
Lorsque vous aviez 15 ans, vous pouviez imaginer que vous deviendriez ce Sartre dont tout le monde parle, que l'on aime, que l'on déteste, qui n'est jamais inintéressant.
Je ne pouvais pas imaginer que je deviendrais ce que je suis, parce qu'on ne l'imagine jamais. Mais quant à me donner une très belle réussite d'écrivain, comptez que le garçon de 15 ans y pensait. Mais seulement, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et finalement, ça voulait dire autre chose que ce que ça veut dire maintenant.
C'était de l'ambition ou c'était simplement une...
Non, ce n'était pas d'ambition, ce n'était pas moi que ça regardait. C'était les choses que je faisais, que je voulais qu'ils soient reconnus. Dès ce moment, d'ailleurs, je ne concevais pas qu'on puisse écrire pour une élite. Je pensais qu'on devait écrire pour tous, d'une manière ou d'une autre.
Bonjour Olivier Mannoni.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes traducteur, fondateur de l'école de traduction littéraire. Vous êtes biographe aussi et auteur d'essais tels que Traduire Hitler et Couler brune, comment le fascisme inonde notre langue, tous les deux parus aux éditions Héloïse d'Ormesson. Que pensez-vous de cette archive de Sartre? C'était dans, on a reconnu hein, l'émission de Jacques Chancel, Radioscopie, qui date de 1973, dans laquelle Sartre est-il finalement modeste ou pas sur sa renommée qui marque et qui marque par exemple un traducteur tel que vous encore aujourd'hui?
Ce qu'il y avait de merveilleux avec Sartre, c'est sa voix, parce que toujours on a cette espèce d'ironie, de sourire, y compris sur lui-même, quand il se regarde... Dans le passé, dans le présent, dans le futur, Sartre, c'est un homme qui a toujours essayé d'éviter la fixation du dogmatisme. Pas le dogmatisme lui-même, mais de rester au même point, de rester au même point immobile. Donc il a beaucoup zigzagué, aussi bien dans son œuvre, qui a une œuvre d'une diversité de genres, de styles tout à fait extraordinaire, dans ses positions politiques. Il varie considérablement, depuis une certaine modération centriste jusqu'à la révolution prolétarienne, la création de Libération, etc. Donc c'est un homme qui bouge en permanence. Et quand il raconte comment lui se voit dans le futur, il y a une ironie vraiment perceptible. Ce que je trouve très beau, c'est qu'ils disent qu'il ne veut pas écrire pour une élite, parce que ses livres de philosophie, évidemment, sont écrits pour une élite. Mais partout, ses pièces de théâtre, ses romans, en particulier à la nausée, sont des textes qui précisément sont écrits de manière accessible et directe, et qui non seulement ne sont pas écrits pour une élite, mais ne parlent pas de l'élite, sinon en pointillé.
Alors deux choses m'ont étonné, Olivier Mannoni. La première, c'est que je l'ai dit, vous êtes traducteur, notamment de l'allemand, même uniquement, hein,
uniquement
de,
oui.
De l'allemand, exclusivement de l'allemand. Pourquoi vous n'avez pas choisi un texte allemand que vous auriez traduit, avec lequel vous auriez eu une intimité, une connaissance du texte très approfondie?
Parce qu'en fait, la question que vous m'avez posée n'était pas celle-là. C'était un livre qui m'avait marqué et qui avait pu marquer la suite. Donc, j'ai fait comme Sartre, je me suis reporté à mes 15 ans et je me suis demandé, mais après tout, dans la littérature que tu lisais à l'époque, qu'est-ce qui a pu faire que tu as pris tel ou tel chemin, hein, pour reprendre le titre de son livre. Moi, mes 15 ans, c'était une période de très, très grande lecture et de lecture de grands auteurs. Quand j'étais en troisième, donc à 13 ans, j'ai lu La condition humaine de Malraux. J'aurais pu aussi bien choisir d'ailleurs aujourd'hui, mais Sartre m'interpellait d'une autre manière. Au point, je me rappelle encore que ma mère avait été convoquée par ma professeure de français parce que je lisais Malraux et que je l'avais dit en classe, et elle trouvait que c'était absolument horrible de faire lire La condition humaine à un garçon de 13 ans.
Elle était inquiète pour vous, en fait.
Oui, c'était une professeure très, très spéciale. Cette réflexion sur ce qu'est le genre humain dans des situations extrêmes, en fait, a conditionné, je pense, le reste de mon activité. Comme le dit Sartre, à 15 ans, on n'a absolument aucune idée de ce qu'on va pouvoir faire après. Je voulais être batteur, donc c'était tout à fait autre chose. Mais ce sont des
batteur
textes...
Batteur musicien, de batterie. Pas batteur.
Voilà, pas batteur avec une batte de baseball. Mais ce sont des livres, en fait, quand on m'a posé la question, ce livre-là, que j'ai lu il y a 50 ans...
Donc La mort dans l'âme, je ne l'ai pas encore dit.
La mort dans l'âme, pardon, de Sartre, donc, m'est revenu immédiatement à l'esprit, et sans que je sache pourquoi. Et en fait, c'est un livre dont j'avais gardé quelques souvenirs, mais ce livre-là, immédiatement, m'est venu à l'esprit, voilà. Donc après, je l'ai relu avant de venir vous voir.
Vous ne l'aviez pas lu entre vos 15 ans et aujourd'hui ?
Non, ça fait 50 ans que je n'avais pas lu ce livre et pourtant ce titre m'est revenu immédiatement à l'esprit. En le relisant, j'ai compris pourquoi. Voilà.
Alors, La mort dans l'âme, c'est le troisième roman d'un cycle de Sartre, commencé en 1945, clos en 1949 avec celui-ci. Ce cycle-là s'appelle Les chemins de la liberté. Ma deuxième question, Olivier Mannoni, en plus de savoir pourquoi vous, germanophone, traducteur de l'allemand, vous n'aviez pas pris un texte allemand, c'était pourquoi ce texte-là en particulier de Sartre, sachant que vous avez cité par exemple La nausée, qui est un roman beaucoup plus connu, qui a beaucoup plus marqué, alors que La mort dans l'âme, je pense qu'on très peu de personnes peuvent citer ce roman-là. Comme je l'ai dit, il n'a pas marqué les foules.
Non, il a dû marquer mon inconscient, je suppose, et c'est ressorti quand on m'a posé la question. Pourquoi je peux l'expliquer maintenant après l'avoir relu, en fait. C'est un roman qui clôt une série donc de trois livres qui sont pas ni les plus connus, ni les plus extraordinaires de Sartre. Hein. Ce sont des livres, des romans assez dilués, je trouve, assez étalés, dont tous les passages ne sont pas passionnants, qui mêlent, ce sont des espèces de romans polyphoniques où il y a une kyrielle de personnages. La structure est assez primaire, hein, je veux dire, ce sont des histoires qui se succèdent, qui se recoupent un tout petit peu, à peine.
Qui se croisent,
voilà, des personnages qu'on retrouve depuis le premier volume, celui de Mathieu, par exemple, le professeur de philosophie, jusqu'à la fin de La mort dans l'âme. Je crois que ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est la question fondamentale que pose Sartre à la fois dans tous ses romans, dans ses pièces de théâtre, etc., qui est de savoir ce qu'est l'être humain, ou plus précisément ce qu'est un être humain dans sa vie. Question qu'il pose dans l'entretien qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devient ce qu'on est alors qu'on est absolument incapable d'imaginer ce qu'on peut être. Et moi, ce qui m'a intéressé à l'époque, je pense, dans La mort dans l'âme, c'est l'être humain qui est face à ce que Peter Sloterdijk appelle la situation critique, Ernstfall en allemand. C'est-à-dire le moment où tous les repères qu'on peut avoir dans l'existence tombent d'un seul coup. La mort dans l'âme, c'est la défaite française de 1940 et la réaction d'un certain nombre de personnages dans leur vie quotidienne qui est totalement bouleversée face à ce qui se passe. Voilà. Je crois que c'est principalement ça qui m'a intéressé. Vraisemblablement, c'est ça qui m'avait marqué à l'époque et que j'ai retrouvé en relisant le livre.
Qu'est-ce que ça vous a fait alors de le relire ?
Alors, j'ai trouvé d'abord qu'il était d'une actualité absolument extraordinaire. C'est-à-dire que ce que fait Sartre, il met en scène ses personnages, ce professeur de philosophie, un monsieur qui s'appelle Daniel, qui est homosexuel et qui passe sa vie à courir les jeunes gens. Et puis, un peloton, je dirais, d'hommes tout simples qui se sont retrouvés, comme le professeur de philosophie d'ailleurs, dans cette drôle de guerre qui commence en 39 et qui va s'achever en juin 40 par une débâcle sans précédent. Comment est-ce qu'ils réagissent ? C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une vie quotidienne, qui ont des principes, et qui se retrouvent tout d'un coup face au néant, face à l'absence totale d'être, c'est-à-dire d'être fixé. Ils se retrouvent dans la nature, les structures qu'ils avaient... Les structures de leur vie personnelle sont éclatées, ils n'ont plus leur famille, ils n'ont plus leur vie quotidienne. Les structures militaires qu'on leur avait imposées ont éclaté aussi, il n'y a plus d'officiers. Il y en a un qui arrive à la fin du livre, un lieutenant qui essaie de les remettre en place, qui est d'ailleurs pas du tout inintéressant. Mais tout ça a éclaté. Et l'être humain se retrouve livré à lui-même, face à la possibilité de la mort, et sans aucune espèce de discipline de la vie quotidienne qui fait ce qu'est un être humain à travers ce qu'il s'est construit, ce qu'il s'est bâti lui-même au fil du temps. Voilà. Et cet instant de sidération totale, où tout s'écroule, est en fait d'une modernité absolue.
Et vous me dites même d'une actualité ?
Oui, d'une actualité absolue. On a des exemples de sidération récents. On a le 11 septembre, par exemple. Mmh. On a l'éclatement de l'épidémie de Covid.
Les attentats
du Bataclan, bien entendu.
Ou de Charlie.
Où tout d'un coup, tous les repères qu'on peut avoir, moraux, existentiels, le simple fait d'être ce qu'on est dans la vie avec la possibilité de vivre normalement selon des repères normaux avec les autres éclate. Manasseh Sperber, le psychologue et écrivain que j'ai beaucoup traduit, a écrit un très beau texte.
Et sur lequel vous avez fait une biographie aussi.
Et dont j'ai fait une biographie, a écrit un très beau texte là-dessus qui s'appelle Les héritiers d'Hérostrate sur ce moment où tout s'effondre à cause du terrorisme. Et où dit en fait la principale conséquence du terrorisme est vraisemblablement son moteur secret, c'est le fait d'empêcher les gens de vivre les uns avec les autres dans les normes qui ont été les leurs, et donc de leur faire perdre toute confiance dans le monde qui est le leur. Je trouve que c'est une idée absolument magnifique, et c'est ce que montre Sartre dans La mort dans l'âme, la destruction de l'univers quotidien et normal et ordinaire de l'être humain.
En le relisant, vous avez dit, Olivier Manoni, que vous aviez compris pourquoi ce titre de roman que vous n'aviez pas relu vous était tout à coup revenu en tête et avait peut-être tracer votre chemin à vous, avez indiqué une voie en tout cas, laquelle ? Vous avez compris laquelle ?
Je crois que dans tout ce que j'ai fait jusqu'ici, mais y compris et peut-être surtout dans la traduction, il y a une volonté, c'est le propre du traducteur, hein, une volonté de chercher ce qu'il y a derrière le réel, derrière les mots. C'est notre métier principal, c'est pas de traduire des mots, c'est d'essayer de voir ce qu'ils cachent.
De voir ce qu'a voulu dire l'écrivain et la réalité qu'il désigne.
C'est une question qu'on se pose en permanence. Mmh. C'est-à-dire, quand il prononce une phrase, la question d'un traducteur, c'est pas dans quel ordre je vais mettre ces mots, c'est qu'est-ce qu'il veut dire. Ça, c'est une interrogation sur le monde. À travers l'œuvre d'un auteur, quel qu'il soit, vous êtes en permanence en train de vous demander quelle est son intention. Dans une vie quotidienne normale, vous pouvez penser, par exemple, que quelqu'un que vous allez croiser dans la rue, en temps normal, ne va pas vous sauter dessus. Un simple regard peut déclencher l'impression inverse. C'est des choses que j'ai vécues dans la vie, dans mon existence. J'ai été le soir où il y a eu l'attentat du marché de Noël à Strasbourg. J'étais là-bas. J'étais avec mon épouse et on est revenu. On pouvait plus rentrer dans le centre de Strasbourg et pour rentrer dans notre hôtel, on a fait une très longue marche autour de Strasbourg dans un univers que Sartre aurait adoré parce qu'il y avait à la fois c'était Noël, donc Strasbourg à Noël, c'est des guirlandes partout, des lumières absolument magnifiques. Et au milieu de ça, vous aviez les gyrophares, les soldats qui sautaient des camions et on est rentré chez nous. À chaque fois qu'on croisait quelqu'un, on avait peur. C'est-à-dire que cette normalité quotidienne dans laquelle on est capable d'exister, tout d'un coup avait disparu. Et chaque personne qui était en face de nous pouvait être un ennemi. C'est une rencontre, d'une certaine manière, avec le néant. Et avec la mort dans l'âme, c'est-à-dire l'idée très existentialiste que, on peut reprendre les termes de Heidegger, hein, que tout d'un coup on a dévalé et qu'on est à la mort, littéralement. C'est-à-dire qu'en permanence, on a la mort possible face à nous. C'est aussi ce que décrit Sartre, et je trouve ce titre, maintenant, me paraît absolument admirable.
La mort dans l'âme.
Ah oui, c'est fantastique.
On va tout de suite en écouter un extrait.
Un éclair d'acier, puis le silence. La molle viande bleue de cette journée avait reçu l'éternité comme un coup de fouet. Pas un bruit, pas un souffle d'air. Le temps s'était figé, la guerre s'était retirée. Tout à l'heure, ils étaient en elle, à l'abri. Ils pouvaient croire encore au miracle, à la France immortelle, à l'aide américaine, à la défense élastique, à l'entrée en guerre de la Russie. À présent, la guerre était derrière eux, close, parfaite, perdue. Les derniers espoirs de Mathieu devinrent des souvenirs d'espoir. Longin se reprit le premier. Il avança ses longues mains comme pour tâter précautionneusement la nouvelle. Il demanda avec timidité.
Alors, il est signé ?
Depuis ce matin.
Pendant 9 mois, Pierre-Ney avait souhaité la paix. La paix à tout prix. À présent, il était là, pâle et suant. Le saisissement l'avait rendu furieux. On nous regarde. De plus en plus dense, la foule les regardait avaler cette pilule historique. Elle vieillissait et s'éloignait à reculons en chuchotant « Les vaincus de 40, les soldats de la défaite, c'est à cause d'eux que nous sommes dans les chaînes. » Il restait là, inchangé sous ses regards changeants, jugé, jaugé, expliqué, accusé, excusé, condamné, emprisonné dans cette journée ineffaçable, enseveli dans le bourdonnement des mouches et du canon, dans l'odeur de verdure chauffée, dans l'air qui tremblait au-dessus des carottes, coupables à l'infini, aux yeux de leurs fils, de leurs petits-fils et de leurs arrière-petits-enfants, les vaincus de 40 pour toujours. Il bâilla. Les millions d'hommes le virent bâiller. Il bâille, c'est du propre. Un vaincu de 40 qui a le culot de bâiller. Mathieu coupa net ce bâillement innombrable. Il pensa, nous ne sommes pas seuls. Il regarda ses camarades. Son regard périssable rencontra sur eux le regard éternel et médusant de l'histoire. Pour la première fois, la grandeur était descendue sur leur tête. Ils étaient les soldats fabuleux d'une guerre perdue. Statufiés. Mon Dieu, j'ai lu, j'ai bâillé. J'agitais le grelot de mes problèmes. Je ne me décidais pas à choisir et, pour de vrai, j'avais déjà choisi. J'avais choisi cette guerre, cette défaite, et j'étais attendue au cœur de cette journée. Tout est à refaire, il n'y a plus rien à faire. Les deux pensées entrèrent l'une dans l'autre et s'abolirent ensemble. Resta la calme surface du néant.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Jean-Paul Sartre, La mort dans l'âme, 1949, extrait de la première partie, lu par Anaïs Isberm. On a aussi entendu la voix de Jules Barbier et Nicolas Berger. C'est un texte très dense, Olivier Mannoni, au-delà de sa longueur, 2 minutes 46, je le précise. Normalement, on diffuse plutôt des textes d'une minute 30, on va dire, là, 2 minutes 46 de Sartre. Avant d'en revenir dans les détails de ce texte, est-ce que vous le trouvez beau ?
Je trouve que l'écriture est admirable. Enfin, c'est splendide. Enfin, notamment, l'entendre aussi bien lu. C'est une écriture extrêmement travaillée, précise, avec des images extrêmement fortes. L'air qui tremble au-dessus des carottes, je trouve ça absolument mais extraordinaire. Oui. Et puis...
C'est l'avènement, tout à coup, le surgissement des carottes.
Exactement, tout à fait. Mm. Et puis cette viande froide et molle, c'est ça, c'est
du molle, tout, viande bleue viande de cette bleue. Journée.
Ce sont des images tout à fait extraordinaires. Le livre n'est pas un chef-d'œuvre, mais il avait une plume tout à fait extraordinaire. Et ce qui est magnifique, c'est cette manière d'introduire dans le roman, qui est quand même un roman populaire, les traces de sa philosophie, quoi. Cette
extrait
sur le choix, sur le néant, sur la manière dont les gens peuvent exister dans des circonstances exceptionnelles, et surtout face à ce néant, c'est-à-dire face à la mort. Pas encore réelle, mais la mort virtuelle.
Alors là, on est dans cette scène avec Mathieu, mais on entend aussi Longin, on entend Pierre Ney, il y en a d'autres, hein, des camarades de Mathieu, qui est un petit peu quand même un des héros qui traverse tout ce cycle des chemins de la liberté. C'est Mathieu Delarue, c'est un professeur de philosophie. Il s'est engagé dans la guerre, il se demande, au moment-là de la débâcle, ils sont en train, en fait, d'apprendre que l'armistice serait signé. Mais ce sont des rumeurs. Et ils sont pile à ce moment de sidération d'entre deux. C'est-à-dire la guerre est finie, mais la suite n'est pas encore là. Qu'est-ce qu'on fait dans cet entre-deux ? C'est la question que pose Sartre, notamment à partir de ce terme de néant. Et je précise pour les auditeurs, auditrices, que le néant dans ce texte est déjà indiqué avec une lettre majuscule.
Tout à fait. La question qui se pose, en fait, c'est précisément celle de l'absence d'informations précises. Les situations de sidération dont on a parlé tout à l'heure sont celles, justement, où la rumeur va s'installer le plus rapidement possible. Pour être d'une génération qui a encore fait son service militaire, le cadre de l'armée est un générateur absolument extraordinaire de rumeurs. C'est quelque chose de phénoménal. Vous en avez 40 par jour
qui passent.
Maintenant,
on n'a plus le service militaire, on a les réseaux sociaux pour
voilà,
ça.
Voilà, tout à fait. La différence, c'est que celle que vous avez dans une unité de l'armée, ce qui est comme le décrit Sartre, ce sont des rumeurs qui sont en vase clos, c'est-à-dire qui tournent en permanence sur elles-mêmes, qui s'alimentent, qui s'amplifient, et qui donnent donc déjà un moteur de création d'une réalité qui est autre, face à quelque chose qui est absolument incompréhensible. C'est doublement incompréhensible aussi du point de vue historique. Il faut quand même rappeler que La France, en juin 40, est absolument persuadée que ça va durer quelques semaines. Elle est absolument persuadée que la ligne Maginot est absolument infranchissable et qu'on va donc aller accrocher le linge sur la ligne Siegfried très prochainement. Et l'arrivée des Allemands se fait en plus d'une manière totalement sidérante. Elle se fait par des moyens littéralement surnaturels et que les Français ne sont incapables de comprendre. L'armée française qui arrive en France, c'est une armée d'abord extrêmement bien équipée, avec des chars, avec des moyens... L'armée allemande qui arrive en France est suréquipée. Mais il y a autre chose. C'est une armée qui arrive littéralement avec... il a une expression fantastique, ça leur tombe dessus. Ça leur tombe dessus pour une raison très simple, c'est que les soldats qui sont en face d'eux ne sont pas dans leur état normal. Ils sont eux aussi en sidération. Les soldats qui envahissent la France sont bourrés d'une drogue qui s'appelle la pervitine, qui va leur permettre en fait d'avancer à une vitesse folle. Les soldats sont capables de rouler avec leur char, leur camion, etc. pendant 3 ou 4 jours sans un seul instant de sommeil, sans que ça leur pose problème sur le moment. Après, il y a eu d'autres conséquences. Oui. Et donc, cette espèce de rouleau fantastique qui arrive, c'est comme effectivement comme prendre une pierre sur la figure. Donc, c'est la sidération totale, comme le 11 novembre, comme le Bataclan. Tout d'un coup, vous avez une nouvelle qui vous tombe dessus et qui vous empêche de réagir et qui alimente bien entendu la rumeur.
Et ça, c'est la situation critique que vous citiez du philosophe Peter Sloterdijk, que vous avez aussi traduit, c'est-à-dire ce moment où tout s'effondrant, ne restant plus que des rumeurs, un entre-deux temporel, l'homme est confronté à lui-même. Et ça pose cette question, en fait. Mais une question, en fait, qui s'adresse à nous tous, c'est-à-dire que la débâcle est un moment historique, mais on pourrait très bien se poser cette question-là tout le temps, c'est-à-dire... Que faire moralement si tout s'effondre? Que me reste-t-il comme valeur? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui me semble bon ou mauvais d'accomplir ou pas?
Tout à fait. C'est le mot de valeur est très très bien choisi. Le ministre chargé de la Défense aux États-Unis, Peter Henstegg, si je me rappelle bien son nom, et qui est un personnage tout à fait interlope, a tenu hier une conférence de presse en disant « Mais bien sûr, les valeurs sont importantes pour nous, mais est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'on peut tirer sur des valeurs ?» Ce qui est une question... elle-même totalement sidérante.
Là, il y a une véritable confusion, pour le coup, avec la réalité. Qu'est-ce qui est réel ou pas? Si une valeur est réelle?
Absolument. Mais d'une certaine manière, on pourra peut-être en reparler. L'élection de Trump et ce qui se passe depuis 3 semaines là-bas nous met face à une situation analogue, c'est-à-dire la défaite totale de la pensée, des principes de droit, des principes constitutionnels et des principes de la valeur humaine, justement. Qui devrait se poser à nous en permanence si on appliquait dans la vie quotidienne une philosophie, c'est-à-dire un questionnement sur ce que nous sommes, sur ce que nous devons être face au réel, face à un réel changeant en permanence. La sidération, c'est précisément le moment où ces valeurs-là, on ne sait plus quoi en faire. Et c'est ce qui se passe pour les héros de la mort dans l'âme. Ils se retrouvent tout d'un coup dans une situation où finalement, les valeurs qu'ils appliquaient, la défense même de la France ou de ce que ça représentait face au nazisme, qui est d'ailleurs très peu présent en tant que tel dans le livre. Hein. C'est là, c'est
donc
les Allemands.
Tout est du point de vue, en fait.
Absolument.
De personnages simples qui errent. Donc là, on a Mathieu et ses camarades, mais en fait, on a aussi Gomez, un exilé espagnol à New York, qui apprend la défaite de la France quand il est à New York. Il est désespéré. Sa femme, Sarah, est sur les routes. Elle est juive. Elle est en France. Il y a aussi Daniel, vous en avez parlé, un homosexuel qui se retrouve dans un Paris désert, qui rencontre Philippe. Voilà, donc chacun réagit tout à fait différemment, mais avec des informations qu'il n'a pas, et en se rattachant, ça c'est comme une des grandes forces de ce roman de Sartre, à des choses presque absurdes. Mathieu veut lire un livre, il n'arrive pas à trouver un livre dans ce village où il est, et donc il se retrouve à jalouser un ami qui a un livre sur la restauration.
Il y a plein de petites choses comme ça dans le roman. Il y a un moment où ils sont tous allongés dans l'herbe en attendant que quelque chose se passe.
Et Qu'on leur dise quoi faire.
Et ils commencent à comprendre, en fait, que d'une certaine manière, pour eux, tout est terminé. Il y en a un qui sort une photo de sa femme.
Oui. Ah oui.
Les autres les sortent aussi. Et au lieu d'imaginer ce que peut être une conversation entre bidas, elle est jolie, elle est pas jolie. Enfin, si, il y a un moment.
Il y a un moment donné, regardez, elle est sacrément moche.
Elle est moche comme des fesses.
Oui, exactement.
Ce qui est absolument horrible. Mais à la fin, il brûle les photos, comme si tout d'un coup, la vie quotidienne, ils comprennent tout d'un coup que c'est terminé, que quelque chose d'absolument radical vient de se produire et qu'ils ont rompu avec leur vie quotidienne. C'est par des toutes petites touches comme ça que Sartre montre que on passe dans un autre univers. Et c'est ce qui fait quand même la force de ce roman.
Il y a aussi, c'est, on l'a entendu à la fin de cet extrait, la question du choix. Sartre, c'est une grande question de la philosophie de Sartre, c'est la question de la responsabilité. De quoi sommes-nous responsables quand une situation que nous n'avons pas choisie nous tombe dessus, en fait? La question se pose de qu'est-ce qu'on peut choisir non seulement quand tous les repères s'effondrent, mais quand nous sommes dans une situation qui m'a été choisie d'une certaine manière.
Oui, alors on peut renouer là avec la philosophie de Sartre en résumant très très rapidement son idée, hein, c'est l'existence précède l'essence. C'est-à-dire qu'aucun être humain en fait n'est constitué de telle sorte qu'il puisse savoir à l'avance ce qu'il va faire sans l'avoir fait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est dans le choix des actes, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans son théâtre, dans sa philosophie partout. C'est le choix des actes qu'on va faire qui va en fait nous déterminer et faire de nous ce que nous sommes. Et c'est ce qu'il montre aussi dans ce roman. C'est-à-dire qu'en fonction des situations auxquelles ils sont confrontés, tous ces hommes vont faire un certain nombre de choix. Est-ce qu'on déserte? Est-ce qu'on se laisse totalement aller? Est-ce qu'on va choisir finalement de résister, ce qui va se passer à un moment du roman? Et en fait, ce que Sartre montre dans sa logique philosophique, c'est que les choix qu'ils font sont parfois simplement dus au hasard, à une impulsion, mais que ces choix, ils sont absolument essentiels. C'est-à-dire que à partir du moment, par exemple, où Pinette, ce personnage...
C'est un petit jeune soldat...
C'est un petit jeune qui a priori, paye pas de mine et puis qui, finalement, va décider de se battre, qui est très, très pittoresque, très, c'est vraiment un personnage du peuple.
Mais c'est très beau, d'ailleurs, ce moment où Mathieu Delarue, donc qui est quand même un des héros du livre, je l'ai dit, voit Pinette, ce petit jeune qui, quand même, faut le dire, vient d'avoir une relation sexuelle avec la postière du village. Quand même, il parvient à faire ça pendant que les autres sont en train de se saouler dans la mairie avec du vin trafiqué, décide en fait d'aller se battre et Mathieu le regarde en disant « Et voilà, la vie de Pinette se finira ce 18 juin 1940. »
Oui, c'est un moment absolument admirable parce que là, Sartre montre qu'en fait, il y a des choix qu'on peut faire et qu'on peut faire à n'importe quel moment. C'est-à-dire que même dans la sidération, il y a un moment où on peut décider d'être lâche, ce que font la plupart des hommes, ou, comme Pinette, de rejoindre. Il faut peut-être juste préciser un tout petit peu le cadre dans lequel ça se passe. Ils sont tous dans ce village, dans une situation d'attente, de complètement perdu. Il y a un gars que Pinette qui s'active un petit peu effectivement avec la postière, mais c'est le néant total. Oui. Et tout d'un coup, ils voient arriver une quinzaine de soldats d'un corps de chasseurs qui arrivent avec des armes. Alors qu'eux ont tous déposé les armes parce qu'ils ont leur plus grande peur, c'est que les Allemands les fusillent ou les attaquent s'ils les trouvent avec des armes. Et ces chasseurs leur disent « Mais nous, on continue à se battre. On est en train de ralentir. Notre mission, c'est de ralentir la progression des Allemands et on est là. Et si vous venez, vous voulez avec nous. » Du coup, il y a une autre possibilité, c'est de sortir du néant pour repasser à l'existence active, pour, d'une certaine manière, sortir du cas critique pour recommencer à maîtriser sa vie. Effectivement, Pinette va choisir d'aller se battre avec eux. C'est un très très beau passage parce que c'est dans les personnages qu'il décrit, c'est pas forcément celui dont on pense, auquel on penserait comme le plus courageux. Et d'ailleurs, je crois que chez Sartre, il s'agit même pas de courage. Il s'agit simplement d'une manière de reprendre les commandes de sa propre vie, quitte à ce qu'elle arrive à la mort. Ce qui est une idée assez admirable, je trouve.
Il n'y a pas de littérature innocente. De même que Saint-Just disait, on ne gouverne pas innocemment, il faut dire, on ne parle pas, on n'écrit pas innocemment. L'écrivain, dans la mesure où il postule et exige la liberté, se trouve précisément exclu d'une partie de la société qui, comme idéologie de combat et de libération, a une doctrine qui nie la liberté. L'écrivain ne peut pas, en tant qu'il est écrivain et qu'il exige la liberté, ne peut pas fournir d'idéologie à la classe dirigeante ou à n'importe qui, si ce n'est pas une idéologie qui exige la libération des gens qui demeurent encore opprimés. Et d'un autre côté, il ne peut pas s'adresser à ceux dont précisément il souhaite la libération, à moins qu'il n'entre dans un parti et qu'il n'agisse à titre de membre du parti en devenant propagandiste, en acceptant que son art devienne de la propagande, donc en réclamant la mort de la littérature et en cessant d'être écrivain.
Archives du 30 novembre 1946, conférence sur l'écrivain. On l'a reconnu, sa voix dont vous parliez, Olivier Mannoni, donc de Jean-Paul Sartre, était à la Sorbonne. Sartre nous dit, c'est tout à fait contemporain hein, de ses romans, des Chemins de la Liberté, donc de ce roman que vous avez choisi, La mort dans l'âme, 1946. Le roman La mort dans l'âme, c'est 1949. Donc là, on est vraiment au même moment de la pensée de Sartre, où il élabore ce qu'il élabore aussi dans Qu'est-ce que la littérature ? La littérature n'est jamais innocente, il n'y a de littérature qu'engagée. Mais le problème, nous dit Sartre, c'est que dès lors que l'écrivain s'engage trop, fait de la propagande, il cesse d'être écrivain. Ce qui fait qu'il y a, d'une certaine manière, un dilemme de l'écrivain pour Sartre.
Oui, c'est un dilemme radical et il voit tout à fait la situation. Ce qui est, c'est un problème très difficile à résoudre, qui est aussi un problème qui se pose à tous les créateurs artistiques. À partir du moment où la matière de votre art devient un vecteur d'idées, de propagande, quelle qu'elle soit, vous perdez en fait ce que doit être l'art, c'est-à-dire quelque chose précisément qui sort du discours à la fois performatif et persuasif. Vous abandonnez l'imagination pour un combat. Ça n'exclut pas du tout qu'un très bon écrivain soit aussi un combattant. Mais la question qu'il pose est vraiment essentielle. Comment est-ce qu'on peut être écrivain et militant à la fois ? Et il a tout à fait raison. Un roman militant, en général, c'est un très très mauvais roman. Et La mort dans l'âme n'est pas du tout un roman militant. C'est un roman qui montre l'être humain tel qu'il est. Mais c'est le dernier roman de Sartre. C'est-à-dire qu'au moment où il pose cette question dans cette archive qui est magnifique, ou d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez sûrement perçu, l'ironie de son entretien avec Jacques Chancel a totalement disparu, ça devient très affirmatif. Et le choix qu'il va prendre, il est double, ça va être de repasser dans la philosophie, puis dans l'action militante, qui là sont plus compatibles, parce qu'une pensée philosophique ne peut absolument pas être militante sans se perdre totalement. Elle doit en tout cas encadrer un militantisme. Et la porte de sortie qu'il va trouver bien des années après, ça va être la presse. Ça va être combat, ça va être libération.
Les temps modernes,
etc. Mmh. C'est-à-dire l'écriture courte, l'écriture de combat, très liée à l'actualité. Autant de choses qui sont rarement reliées avec des romans dignes de ce nom.
Mais vous qui êtes traducteur, Olivier Mannoni, c'est quoi alors un bon roman qui allie cette imagination et qui allie quand même cet esprit aussi de combat, en tout cas cet engagement. Vous l'avez dit à propos de La mort dans l'âme, ça n'est pas un chef-d'œuvre. Mais vous ne cessez de dire aussi que l'écriture est admirable, que c'est pas militant non plus, que... Alors voilà, si c'est pas un chef-d'œuvre ça, c'est quoi un chef-d'œuvre dans cet équilibre-là ?
À mon avis, un vrai chef-d'œuvre, c'est un roman qui regarde le monde avec les yeux d'un écrivain, avec les techniques d'un écrivain, mais qui assume le fait d'être un regard totalement subjectif et individuel. Ça veut dire qu'un roman peut être totalement politique. Si vous prenez Le Zéro et l'Infini de Koestler, par exemple, c'est un roman qui est essentiellement politique. Ce n'est pas un roman militant. Il décrit une situation, il va s'engager, mais il met au service de cette description l'art de l'écrivain, la technique de l'écrivain. Et il n'offre surtout pas de porte de sortie. Il n'y a pas de porte de sortie dans Le Zéro et l'Infini. Il n'y a pas un appel au militantisme, quelque part. Les romans qui appellent au militantisme, dans quelque sens que ce soit, sont en général de mauvais romans. Je le sais, j'en ai écrit, heureusement, n'ont jamais été publiés.
Vous en avez écrit ?
Oui, mais il y a très très longtemps.
Est-ce que vous en avez traduit ?
Des mauvais romans ? Oui, absolument.
Mais militants.
Mais des romans militants, oui, et j'en ai traduit des très bons, mais qui respectaient ces règles-là. C'est-à-dire, un des romans vraiment militants les plus forts que j'ai traduit, c'est j'ai traduit ça il y a très très longtemps, pendant mon service militaire d'ailleurs, c'était le roman d'un monsieur qui s'appelle Ralph Giordano, qui s'appelle Les Bertini, c'est paru aux éditions Hachette à l'époque. C'est un roman d'une force absolument extraordinaire. Ralph Giordano était un juif allemand qui vivait à Hambourg et il a passé une grande partie de sa vie dans les caves, sa vie pendant la guerre, pendant le nazisme, dans les caves à Hambourg. Et il raconte cette vie terrifiante qui mène dans l'obscurité pendant 4 ans, si je me rappelle bien. L'élément du militantisme, il apparaît en fait sur une scène qui est un moment de jubilation absolument extraordinaire, qui est un moment de sidération aussi, comme celui que décrit la mort dans l'âme. C'est le moment où les Anglais bombardent Hambourg. Ils bombardent Hambourg au phosphore. C'est donc la ville a été incendiée, mais c'était un gigantesque brasier. Et en voyant la lumière à travers les soupirails de leur cave, toute la famille va sortir et est prise tout d'un coup d'un espèce d'élan de jubilation phénoménale. Ils se mettent à danser devant les flammes. C'est une scène vraiment magnifique. Et à cet instant-là, Ralph Giordano regarde sa mère, qui a une quarantaine d'années, et s'aperçoit qu'elle a les cheveux complètement blancs, ce qu'il ne pouvait pas voir dans la cave. C'est un peu ce que décrit Sartre aussi, c'est-à-dire le moment où, tout d'un coup, la situation éclate, le réel revient, mais sous une forme complètement dissolue, extrêmement violente, et où on n'a plus aucun repère d'autre, sinon la joie de voir l'incendie de l'ennemi, des gens qui les ont opprimés. C'est du militantisme, c'est dire, et Ralph Giordano était aussi un militant politique allemand assez énergique. Et le roman est admirable, précisément parce que cette descente dans le néant est vue à la fois sous les yeux de quelqu'un qui a une haine phénoménale pour les nazis, au point de jubiler en les voyant brûler vifs. Il y a des scènes terribles, il voit des gens qui passent comme des torches et il se met à applaudir et à crier de joie. Donc le thème y est, et pourtant c'est un très très beau roman. Voilà. Mais il ne dit pas voilà comment il faut militer. Pour que,
oui,
voilà.
C'est pas un tract.
C'est pas un tract.
Pourquoi vous avez dit, Olivier Mannoni, que La mort dans l'âme n'était pas un chef-d'œuvre? Parce que, est-ce qu'il manque justement peut-être quelque chose de l'ordre de la langue, du travail?
Je crois qu'il manque quelque chose de la structure qui fait que... J'ai toujours trouvé les pièces de Sartre admirables. La nausée est un roman qui, à mon avis, est un bon roman dans la mesure où il est très bien structuré, très bien conçu. Là, dans toute cette trilogie, en fait, on en a parlé au tout début, on a une succession de scènes, personnages qui peuvent ne jamais se croiser, hein, comme Daniel, Mathieu, par exemple, ou Gomez, qui est très loin. Et donc, il décrit sous forme de scènes successives, juxtaposées, pour former un ensemble. Ça, c'est une méthode de travail. À la fin du livre, on se dit quand même... On attendrait une structure. Oui. Voilà. C'est ce qui fait qu'à mon avis, c'est pas du point de vue purement de la pure technique romanesque, c'est pas un chef-d'œuvre, comme peuvent l'être, je sais pas, pour moi, un chef-d'œuvre, c'est les romans de Flaubert, dont la structure est tellement travaillée qu'elle saute aux yeux quand on a fini le livre. Là, c'est un livre où on se perd un peu.
C'est pas très subtil. C'est-à-dire qu'un personnage égale une thèse.
Oui, tout à fait.
Il y a absolument. Quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle le roman à thèse. Mmh. Alors, c'est pas un roman à une thèse, c'est un roman de situation, pour reprendre un terme sartrien, mais effectivement, un personnage, une thèse, un choix, et les dialogues sont la confrontation de ces thèses-là, mais dans le même la structure et dans le travail même de la langue. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'inventivité, enfin pardon pour Sartre, mais...
Alors, il y en a. Dans certaines scènes, il y a des scènes absolument admirables. La scène de la soulerie dont vous avez parlé,
c'est vrai.
Cette espèce d'orgie invraisemblable où là, il n'y a plus aucune espèce de limite. C'est-à-dire que il y a des passages mais horribles, quoi. Je n'ose même pas citer les passages du livre où ils décrivent ces bassines de vin qui sont partout dans lesquelles ils se vautrent littéralement.
Oui, il y a même un des soldats qui trempe son sexe dedans.
Absolument, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et cette scène-là, elle est assez extraordinaire parce qu'il va jusqu'au bout de ce qu'est précisément le néant, de ce qu'est la chute de l'être humain, qui tout d'un coup considère qu'il n'a plus aucune espèce de limite, plus aucune espèce de valeur, pour reprendre ce terme. Et là, l'existence se résume en fait à la strate la plus basse de l'être humain, la strate pratiquement animale, qui va se vautrer dans une espèce de jouissance triste en plus, parce que c'est même pas gay, enfin c'est une orgie, quoi. Ça vomit,
une orgie sans la gaieté de Dionysos, quoi.
Voilà, c'est l'orgie du désespoir.
Oh, Kinder,
die Tücher vont gleich in die Wäsche.
Ja.
Ich wasche ein paar Gläser ab.
Bon, alors qui va jouer avec nous?
Le 12 septembre.
Viens, Lina.
De l'année 1927. L'an prochain, tu seras haut comme ça, et puis comme ça, et comme ça. Jusqu'à ce que tu sois grand comme moi.
Il va falloir que j'aille me coucher.
Il est éternellement fatigué.
Hein? Tu as eu tort quand tu ne te mariais avec un boulanger.
Oh, et
alors
c'est drôle.
18.
Pour 18. Une fois.
21. Alors, si je joue, je vais m'endormir.
2.
Oui.
Alors, Oscar, c'est fini le temps où les jupes de ta grand-mère servaient
moi,
de cachette.
J'ai ma cœur qui va être gagnante.
C'est dépassé. À ta santé, Lina.
Je n'y comprends rien.
Ce jour-là, réfléchissant au monde des adultes et à mon propre avenir, je décidai d'y mettre un point final. Désormais, je ne voulais plus grandir d'un pouce. Je voulais rester pour toujours l'enfant de 3 ans, le gnome.
Extrait du film Le Tambour de 1979, qui est une adaptation du roman du même nom de Günter Grass, qui lui date de 1959. Günter Grass, écrivain allemand, prix Nobel de littérature en 1999. Les 9 portent chance apparemment à Günter Grass. Et que vous avez traduit, Olivier Mannoni, vous lui avez consacré une biographie. Est-ce que Günter Grass, comme Ralph Giordano dont vous parliez, est là aussi un écrivain qui parvient à être cet écrivain engagé que Sartre a décrit et que dans vos traductions vous avez pu percevoir?
Alors j'ai pas traduit Sartre, un tout petit texte qui va sortir, mais ça c'était la traduction de Jean Hemsler, qui était un immense traducteur, pas la version française du film, qui comme toutes les versions françaises est bon, bref.
mais je trouve que le petit garçon s'en
le
sort bien.
Le petit garçon s'en sort bien. Le reste c'est
catastrophique. Petit Oscar de 3 ans.
Mais j'ai consacré 2 livres à Günter Grass, qui est assez proche finalement dans biographiquement de Jean-Paul Sartre, parce qu'il s'est posé toute sa vie la même question, c'est-à-dire comment est-ce que je peux être à la fois un militant, et c'était un militant social-démocrate engagé pendant une bonne partie de sa vie jusqu'à ce qu'il rompe avec le Parti social-démocrate allemand, et ma vie d'écrivain. D'une certaine manière, il a trouvé les réponses dans sa propre biographie, comme le fait Sartre d'ailleurs, hein, puisque le personnage de Mathieu, c'est quand même aussi un reflet de Jean-Paul Sartre lui-même. Ce passage-là, il est intéressant parce que précisément, il montre comment on peut utiliser l'histoire, utiliser sa biographie, utiliser des thèmes, je dirais pratiquement obsessionnels chez Grass, pour traiter le problème. La chute du petit Oscar dans l'escalier, j'ai développé ça dans la biographie, et Grass ne m'a pas démenti. C'est le moment où Grass, qui a été, comme beaucoup d'Allemands, jeune hitlérien, mais qui dit dans tous ses interviews qu'il a été un jeune hitlérien absolument convaincu, tellement convaincu qu'en en 1945, quand les Américains arrivent, il est fait prisonnier dans une unité dont il m'avait dit, moi, que c'était une unité de grenadiers, qui est en fait une unité de la Waffen-SS, où il avait été enroulé plus ou moins de force. Et les Américains leur font visiter le camp de Dachau. Et ils sont tellement persuadés que les Américains leur mentent, que tous ces jeunes Allemands qui ont été endoctrinés depuis pratiquement pour Grass depuis leur 8 ans pour ce qui le concerne, sont persuadés que c'est un décor, une espèce de village Potemkin qu'on a monté à leur intention pour faire peur. Et en fait, Grass raconte que la réalité du monde qu'il a vécu va lui apparaître un peu plus tard pendant le procès de Nuremberg, où Baldur von Schirach, qui était le leader des jeunesses hitlériennes, va passer des aveux complets, qui vont d'ailleurs lui éviter la pendaison, et où Grass entend ça à la radio. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'il a vécu entre 1933, donc entre ses 6 ans, et 1945, donc ses 18 ans, il a vécu dans un univers qui était totalement imaginaire, totalement trompeur. Et on retrouve le même effet de sidération que la débâcle française. Et à ce moment-là, il y a une rupture, mais extrêmement violente, et je suis persuadé que la chute d'Oscar dans l'escalier, c'est ce qu'il décrit, c'est-à-dire cette chute-là, c'est sa chute personnelle. Et à partir de ce moment-là, en fait, son existence n'a plus aucune espèce d'importance. Il va devenir quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre en agissant. Donc il va se retrouver après dans un certain nombre de petits métiers, et puis il va devenir écrivain, comme Sartre, vraisemblablement sans imaginer qu'il le deviendrait. Ça va devenir un immense écrivain. Alors, l'œuvre de Grass est une des plus grandes de la littérature allemande contemporaine, mais elle se fonde sur ce choc premier, primitif, qui va le poursuivre toute sa vie après.
Vous avez traduit Mein Kampf, Hitler, Olivier Mannoni. C'était un projet sur 10 ans, vraiment voilà, massif. Je ne sais pas comment le dire autrement. Vous avez vécu 10 ans quand même dans ce texte-là avec des historiens. On est sorti un essai qui s'appelle Traduire Hitler. Vient de paraître Coulée Brune sur la manière dont le fascisme en fait trafique, corrompt le langage. Günter Grass, il a vraiment vécu ces deux niveaux du langage, c'est-à-dire d'un côté la corruption du langage et la tentative de pouvoir le reconquérir avec la littérature.
Tout à fait. C'était une reconquête consciente, c'est-à-dire que les écrivains allemands qui sont restés en Allemagne et ceux qui sont revenus après la guerre, s'aperçoivent que leur outil de travail, c'est-à-dire leur langage, a été totalement, très profondément et pratiquement définitivement corrompu. Et ils vont essayer de réfléchir ensemble au sein d'un groupe qui s'appelle le groupe 47, où on retrouve de très grands écrivains comme Böll, comme Siegfried Lenz, plus tard Peter Handke, de reconstituer une littérature allemande qui tente sinon de s'affranchir de ce qui s'est passé, et de ce qui s'est passé avec le langage, du moins de réinventer autre chose. La langue allemande a été littéralement pourrie de l'intérieur par le nazisme, qui s'est infiltré partout en changeant le sens des mots, en apportant d'autres, et surtout en inventant une langue de dissimulation qui a été appliquée partout et notamment qui a été appliquée pour dissimuler la Shoah. Mais ce vocabulaire, il était omniprésent.
Est-ce que vous avez des exemples?
Des exemples tout bêtes, si vous voulez, pour désigner par exemple la déportation des juifs vers l'Est, ils utilisaient le mot Umsiedlung, qui veut dire, littéralement, c'est le déménagement, le changement de quartier. Quand une famille juive avait été expulsée de chez elle et déportée, on collait un petit panneau sur la porte où il y avait marqué Abgewandert. Abgewandert, littéralement, étymologiquement, ça veut dire il est parti se promener. En fait, on traduit plutôt ça par parti sans laisser d'adresse, mais ça veut dire que les gens avaient été emmenés, que l'appartement était clos et en fait il allait être redonné après à ce que les nazis appelaient des Aryens. Mais ça signifiait simplement la vie d'une vie. Et la totalité du langage nazi était faite comme ça, c'est-à-dire un langage qui, de faire tout chung, on dit en allemand, de maquillage, pour dissimuler la réalité. Victor Klemperer a écrit sur ce sujet-là un livre absolument majeur qui s'appelle Lingua Terti Imperii, la langue du Troisième Reich, où il montre que dans la vie quotidienne, tout était dévoyé et jusqu'au pire chose, pas dans ce livre-là, mais dans son journal qui est admirable, qui s'appelle Mes soldats de papier, il raconte par exemple le jour où il reçoit une lettre en lui disant qu'il s'appelle Victor, mais qu'à partir de ce moment-là, il va être obligé de choisir entre 3 prénoms juifs, et que son prénom allemand ne sera plus autorisé. C'est-à-dire que c'est un langage qui sape même la réalité humaine des gens et jusqu'à leur existence la plus profonde. Un prénom, qu'est-ce qu'il y a de plus que ça? Voilà. J'en parle dans Traduire Hitler, je fais une analogie avec les propos d'Éric Zemmour qui demandait aux jeunes musulmans de changer de prénom. Et voilà, c'est un peu le genre de choses qui m'épouvantent dans ces questions de langue.
Est-ce que, mais surtout que la langue, c'est quand même ce qu'on utilise tout le temps. Là, par exemple, on est en train de parler. Mm-hmm. Quand on est écrivain, la question de trouver la bonne formule, le bon nom, reconquérir le langage, la bonne structure, on en parlait à propos du roman de Sartre, c'est une question évidemment qui se pose, mais quand on parle au quotidien, on ne peut pas être tout le temps en fait en train de se questionner, être en dehors de soi et de se questionner sur les mots qu'on emploie. Donc c'est presque vertigineux comme question. On est dans cette situation comme les soldats de Sartre, à être en fait dans une situation de convention sociale langagière qu'on n'a pas choisi.
Non, à laquelle on peut quand même faire attention. Alors, je vais vous raconter juste un réflexe de traducteur d'allemand, par exemple.
Ouais.
Quand on a le mot Zusammenarbeit en allemand, on évite de traduire par collaboration, on va plutôt mettre coopération. Parce que ce sont des mots qui, chez nous, sonnent très bizarrement et dont on ne sait pas comment ça va être pris derrière.
Ouais.
Voilà, dans la vie quotidienne, effectivement, si on devait contrôler chacun des mots qu'on prononce, on deviendrait tout simplement fou parce qu'on serait, en fait, dans une espèce de surmoi permanent qui nous dirait attention à ce qu'on dit. C'est d'autant plus dangereux que cette langue, elle nous est imposée, elle nous est inculquée, insufflée de l'extérieur. Un terme qu'on emploie beaucoup en ce moment, qui est celui de migrant, on ne s'est pas aperçu à quel point ça avait changé. Moi, dans toute ma jeunesse, on parlait de travailleurs immigrés. Les Allemands parlent de Fremdarbeiter, les travailleurs étrangers. Ce sont deux notions. Déjà, il y a le mot de travailleur, donc le mot d'actif. On a parlé de réfugiés aussi, bien entendu, pour parler de gens qui avaient été chassés de leur pays ou qui avaient été obligés de le fuir. Là, le migrant, c'est un mot qui s'impose en ce moment, qu'on entend partout et qui n'est absolument pas questionné. C'est-à-dire, quand vous dites « j'ai été attaqué par un migrant », vous avez l'impression d'avoir... En fait, c'est une catégorie pratiquement criminalisée. Aussi bien chez nous qu'en Américain. Je veux dire, Trump s'en sert très très régulièrement, avec une rhétorique qui est assez proche de celle de l'époque dont on vient de parler. Quand il dit que les migrants vont contaminer le sang américain, on est vraiment dans des parallèles qui sont absolument épouvantables. Et voilà, après on peut faire attention. Moi je parle pas de migrants par exemple, mais c'est vrai qu'il faut un surmoi linguistique qui est assez actif et présent et pas devenir fou avec.
Et puis à quel moment, parce que c'est vraiment la question que pose La mort dans l'âme de Sartre, c'est à quel moment en fait on choisit ?
Oui.
C'est-à-dire que effectivement on peut pas être dans un surmoi, mais continuer par exemple en fait à se laisser imprégner par des mots dans l'air du temps comme migrant, mais ça pourrait être aussi parler d'être pris en otage quand on parle d'une grève par exemple. Maintenant c'est une expression qu'on a vraiment complètement banalisée. À quel moment en fait c'est la lâcheté de se laisser faire et à quel moment c'est du courage de ne plus l'employer?
À partir du moment où vous décidez que certains mots ne répondent plus à aucune réalité, ou plus exactement, qui n'ont jamais répondu à aucune réalité. On parle très couramment depuis les années 80 en France de plans sociaux, qui consistent grosso modo à virer le maximum de personnes possibles d'une entreprise. On ne devrait plus l'employer. Et cela, c'est chacun de nous. Les journalistes ont une grande part de culpabilité, mais de responsabilité dans l'usage de ces mots-là. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'interroge sur l'usage de ce terme, ce qu'il implique et surtout ce qu'il va mettre dans la tête des gens. Un plan social, c'est pas un plan social. C'est un plan de licenciement qui va permettre éventuellement d'accroître les dividendes des actionnaires. C'est du quotidien, ça désigne aussi des choses tout à fait épouvantables. Un roman que j'aurais pu choisir aujourd'hui, qui est allemand, c'est le roman de Martin Suter qui s'appelle « La face cachée de la lune », où il a l'idée géniale de prendre un avocat d'affaires zurichois qui est un spécialisé dans les plans sociaux. Donc il fait que ça en fait, organiser dans l'ombre le licenciement de gens. Il est très 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 connu, très respecté, c'est vraiment un homme de... et tout d'un coup il rencontre une petite hippie dont il va tomber amoureux, donc cas critique, et qui dans les montagnes suisses, il paraît que ça se fait beaucoup, lui fait fumer des champignons séchés. Dans le Jura.
Ah oui.
Oui, pareil. Ça se cultive énormément, enfin, ça se récolte énormément, et voilà. Et dans les champignons en question, il y en a un qui contient de la psilocybine, pardon. Bref. Et qui va le rendre fou, c'est-à-dire qu'en fait, qui va le révéler à lui-même. On est vraiment dans la problématique sartrienne. Et ce monsieur respectable qui passe sa vie à mettre des gens à la rue, va révéler sa véritable nature et se mettre à tuer. Mais vraiment devenir un tueur redoutable, très discret. Il fait des choses abominables. Un jour, il est dans la montagne, il y a une voiture qui veut le doubler. Il va attendre le moment où lui voit deux virages plus loin un camion pour laisser la voiture le doubler. Et la voiture est naturellement pulvérisée. Voilà. Ça, à mon avis, c'est le roman qui est délicatement militant, comme peut l'être Martin Suter, mais qui montre des choses qui devraient nous faire réfléchir effectivement au langage qu'on emploie.
Crimson flames tied through my ears, rolling high and mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half-racked prejudice leaped forth, ripped down all hate, I screamed. Lies that life is black and white spoke for my skull, I dreamed. Romantic facts of musketeers foundationed deep somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now.
Cette chanson, Olivier Manoni, pour introduire cette séquence de fin d'émission après avoir évoqué Sartre, cette œuvre, La mort dans l'âme, qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire mais que vous n'aimez pas du tout. Qui avez-vous choisi ?
Alors, je vais choquer, mais c'est pas que je l'aime pas du tout, c'est qu'il me laisse insensible, ce qui est embêtant pour un roman. C'est un immense auteur dont je reconnais absolument les qualités littéraires, mais qui, moi, ne me parle pas. Et en fait, il s'agit de Marcel Proust, que je n'ai jamais réussi à lire très longtemps.
Donc vous ne l'avez pas fini ?
Non. Non, non. Je le rencontre très régulièrement dans des... Un traducteur a toujours des citations à un moment, donc on va piocher dans les livres. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est magnifique, mais c'est comme s'il parlait à quelqu'un d'autre. Voilà. Ce qui n'est pas vraiment une critique, c'est juste qu'il ne me parle pas, parce que je pense que... En fait, justement, il n'est pas dans le cas critique. Et que c'est ce qui me manque le plus chez lui. L'absence de relation à la mort... Me gêne. Je sais que tout le monde va me dire, mais la mort est partout. Mais non, pas pour moi, je la vois pas, je la trouve
pas. Sa grand-mère meurt quand même.
Oui, absolument. mais voilà, cette espèce de cocon romanesque, moi, me laisse indifférent. Ce qui veut pas du tout dire que c'est pas un immense auteur. C'est simplement que, par rapport à cette espèce de littérature épique que j'aime bien, que définit Sperber, là encore très très bien. C'est-à-dire une littérature qui met en scène l'homme dans l'action et pas dans la... Et pas dans cette espèce de quotidien de sentiment, pas sentimental, de
quotidienneté,
de contemplation du sentiment, etc., me laisse moi un peu de marbre.
Est-ce que vous avez essayé de le lire en allemand ?
Ben, j'en ai eu des extraits en allemand, donc je les ai lus en allemand, d'ailleurs très bien traduits, mais ça change
mais
pas
ça change
grand
rien.
Chose, malheureusement.
J'aimerais quand même vous lire, Olivier Manoni, juste un court texte de Sartre, parce que vous avez dit tout à l'heure que la littérature telle que l'entend Sartre, c'était une littérature qui n'était pas militante au sens de donner une porte de sortie. Sartre dit ceci, il est à souhaiter que la littérature entière devienne morale et problématique comme ce nouveau théâtre moral, non pas moralisatrice, qu'elle montre simplement que l'homme est aussi valeur et que les questions qu'il se pose sont toujours morales, surtout qu'elle montre en lui l'inventeur. En un sens, chaque situation est une souricière, des murs partout. Je m'exprimais mal, il n'y a pas d'issue à choisir. Une issue, ça s'invente. Et chacun, en inventant sa propre issue, s'invente soi-même. L'homme est à inventer chaque jour.
C'est magnifique. Mais il dit bien que c'est pas lui qui propose l'issue, c'est pas lui qui ouvre la porte. Et c'est là où il est intéressant. Il l'a fait après, hein, dans toute son activité militante, dans son activité journalistique, dans son activité d'essayiste, évidemment. Enfin, il a été un militant extrêmement actif. Précisément, il rompt avec le roman à ce moment-là. Et c'est peut-être ce qui a sauvé ses romans précédents.
Merci beaucoup, Olivier Manoni, de nous avoir parlé de Jean-Paul Sartre, de la mort dans l'âme, mais aussi de votre travail. De vous, on peut lire Coulée brune, comment le fascisme inonde notre langue. C'est paru en octobre dernier aux éditions Héloïse d'Ormesson. Votre traduction de Marseille 1940, quand la littérature s'évade, de Uwe Wittstock. Je le prononce bien ?
Tout à fait.
Aux éditions Grasset. Et votre traduction parue hier aux éditions Verdier de Le Monde de Demain, une Europe souveraine et démocratique et ses ennemis de Robert Ménas. Je le dis bien aussi là ?
Tout à fait. Et c'est un livre très important sur l'Europe, le livre de Ménas.
Et pour lire La mort dans l'âme de Sartre, eh bien, et tout le cycle d'ailleurs des Chemins de la Liberté, c'est disponible en folio Gallimard. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Élise à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles à la réécoute sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. La semaine prochaine, j'ai le grand plaisir de vous retrouver avec l'équipe d'Avec Philosophie dès lundi pour une série d'émissions sur l'anti-Œdipe de Deleuze et Guattari.